Alors, l'intervention suivante, c'est Rémi qui a demandé de permuter avec Jérôme, mais je pense que ça ne vous gênera pas plus que ça. Il va parler du crédit d'impôt.
Moi, je voulais juste avant, je vais encore faire polémique, mais je voulais juste vous demander quelque chose avant, parce que c'est très important et c'est quelque chose qu'on ne dit pas. Ça vient de ce document-là, c'est un document d'État, Énergie en France, et ça rejoint ce que vous parliez, énergie primaire, énergie finale. Alors, quel est le bilan énergétique du nucléaire? Je vais faire très très rapide. C'est juste dans l'introduction. Donc c'est dans ce document-là. Et c'est ce graphique-là. Alors il est coupé en deux. Et je vais vous le montrer en grand. Donc il est là. Le nucléaire, la production, énergie primaire. Donc ça c'est en France, 117. Paf, le pétrole c'est 91. Le pétrole va le transporter, il va y avoir un peu de perte. Ça part là, ok, on en ressort. 91 dits qui sont extraits avec le transport, l'extraction et tout, on en sort 85 pour notre consommation. Le nucléaire, on part à 117, on arrive à 37. Le reste, perte et rendement de conversion. Le rendement d'une centrale nucléaire, c'est à peu près 30% avec les pertes en ligne, etc. Ça, c'est important aussi dans le contexte, bah, aujourd'hui, on met beaucoup de pompes à chaleur. On nous dit que pompes à chaleur, le rendement, c'est 1 pour 3.
Ouais, on prend juste l'électricité.
Bon, bah, on fait un rendement, on a 37, on fait un rendement d'un pour 3. On arrive à 100 à peu près. Il en a fallu combien pour consommer au départ? 117. En fait, on a juste compensé les pertes. Voilà. C'était juste une aparté, mais qui est très importante parce que ça. On nous le dit peu.
Oui, oui, mais juste, ils n'ont pas compris, c'est qu'en fait, sur les pompes à chaleur, on vous dit pour 1 kW nécessaire à son fonctionnement, vous en produisez 3. Hein, donc en fait, vous avez un rendement de 3. Donc ce qu'il vous dit, c'est que là, on compense juste l'effet de la perte qui était faite entre la production de l'électricité et la. On compense juste la perte, donc on n'a rien gagné.
Si, les déchets.
On a gagné les déchets.
Voilà, on a gagné les déchets, la pollution.
Alors, pour introduire, je vais présenter le crédit d'impôt. Alors, je ne défends pas le crédit d'impôt, je le présente parce que. On était dans le budget ménage, et puis ensuite il y a mon collègue qui va pointer le prêt à taux zéro, et il vous dira qu'il est cumulable en partie. Le crédit d'impôt, bon, je pense que vous connaissez assez bien, mais pour rappeler un petit peu le cadre, il faut que l'installation soit faite sur une résidence principale, que ça soit fait par un installateur, deuxième critère. Ensuite, dans la déclaration de revenus, soit c'est déduit de ce que vous payez. Donc ça s'applique sur le matériel, uniquement, TTC. Et ensuite, c'est déduit soit de ce que vous payez comme impôt, soit c'est un chèque, le trésor public vous fait un chèque. Qu'est-ce qui est pris en charge? Si vous payez, si t'installes un chauffe-eau solaire et t'as 4000 euros de main-d'œuvre, t'as 50% sur 4000 euros, donc tu vas avoir 2000 euros. Si tu payes 4000 euros d'impôt, bah, tu vas payer plus que 2000. Et si tu payes 0, bah, c'est pour te faire un chèque de 2000. Qu'est-ce qui est pris en compte très rapidement? Chaudière condensation, matériaux d'isolation, régulation, production d'eau chaude ou de chauffage par bois ou biomasse, pompe à chaleur. RR, c'est 0 depuis cette année. Raccordement réseau de chaleur. Équipement, production d'électricité d'origine solaire et éolienne ou photovoltaïque. Et récupération de pluie. Bon, les taux, on pourra vous les donner en détail, mais bon, là, c'est un peu. On pourra venir s'il y a une question particulière sur un projet, par exemple. J'avais noté, qui était intéressant aussi. Ça a des avantages, ça a des inconvénients. On parlait tout à l'heure, il faut faire un appel à un installateur. Alors je pense que déjà l'idée au départ, si ça a été mis en place par l'État, c'est que c'est aussi pour faire tourner les installateurs. Après, effectivement, quand on va poser une huisserie, en général, le coût le plus important, c'est pas le coût de la manœuvre, donc ça ne va pas forcément porter préjudice, on va dire. C'est vrai que quand on va faire l'isolation, il peut y avoir des coûts de manœuvre importants. Donc là, effectivement. On peut se dire que c'est dommage que si on le fait soi-même, on n'ait aucun avantage. Ceci dit, ça a changé depuis l'année dernière, puisque cette année, alors j'ai dit que c'était que le matériel, en fait, hors, entre guillemets, l'isolation, puisque l'isolation, il y a, si c'est la rénovation et qu'on a acquis l'habitation depuis 2 ans, on a 25% sur le matériel plus la main-d'œuvre. Et si c'est une habitation qu'on vient d'acquérir, on a 40%. Si elle date avant 77.
Il y a un plafond.
Alors, il y a un plafond, 16 000 euros de dépenses éligibles, donc si on a pour un couple. Donc si on est si on a 50%, si on est sur du solaire, on va avoir 50% sur 16 000 euros éligibles, donc on peut aller jusqu'à 8 000 euros. Pour un couple, une personne seule, ça sera 8 000 euros. Qu'est-ce que
sur les 5 ans.
Sur 5 ans.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire que vous avez le droit à maison bout, vous êtes seul, vous avez le droit à 8 000 euros. Si vous faites une installation en bois et que vous utilisez 4 000 euros, vous avez encore 4 000 euros pour faire une autre installation, par exemple en solaire, sur les 5 ans. Si vous faites une installation, on va dire une chaudière granulée qui vous coûte assez cher et que vous dépassez le plafond, vous avez 10 000 euros de matériel. Vous dépassez le plafond, donc vous n'avez que 4 000 euros, puisqu'on va revenir à 8 000, donc vous n'avez que 50%, donc 40% par exemple, sur le bois, vous allez avoir 3 500. Vous le faites cette année, et l'année prochaine, vous dites ah, je veux mettre du solaire. Mais là, vous n'avez plus de crédit d'impôt parce que vous avez dépensé.
Et si on a changé de local?
Si on a changé de résidence principale, ça ne change rien. Ça change rien.
Non, mais c'est parce que c'est ce qui s'est passé.
Alors, J'ai aussi oublié de préciser, non mais c'est une question en fait, c'est une question qui n'est pas forcément bête parce que j'ai oublié de préciser aussi, c'est ouvert aussi pour les bailleurs.
Comment ?
C'est ouvert aussi pour les bailleurs.
Les propriétaires.
Les propriétaires bailleurs. Donc on a le droit de faire, alors le plafond je crois que c'est 6 000 euros par logement. Et on a le droit de faire, je ne sais plus, je crois que c'est 3 logements dans l'année ou.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi depuis cette année les pompes à chaleur RR sont exclues du tout?
Je ne veux pas rentrer dans la polémique, dans le machin. Ils estiment que c'est pas. On a parlé tout à l'heure de. Les meilleurs systèmes de chauffage, c'est par rayonnement. Radiateur, poêle de masse, planche chauffant. Bah, le mieux, c'est le chauffant, le poêle de masse, et puis après, c'est le radiateur. La pompe à chaleur RR, c'est de l'air. C'est de la convection, c'est pas agréable en ressenti, c'est pas agréable. On estime que c'est pas un bon système de chauffage. C'est une des raisons pour lesquelles ils l'ont mis sur la couche.
C'est pas parce que ça refroidit aussi, non ?
Ça peut faire climatisation, effectivement, et ça peut être réversible.
Non, c'est pas ça.
Vas-y.
On parle de
vivre.
En fait, il semble y avoir deux problèmes là-dessus. J'en parle parce que moi j'habite en Creuse, et en Creuse on a un espace info-énergie qui est dans les locaux du syndicat départemental d'électrification de la Creuse. Il y a quelques années, ils ont mis en place ce type de chauffage, et justement le conseiller énergie, il y a quelques mois, était dans une commune où l'architecte leur avait dit bah, « ça serait bien de mettre une pompe RR ». Et lui, il leur a dit bah, « attendez, en plus c'était un jour où il neigeait qu'il était en train de faire le truc ». Il dit bah, « attendez, vous voulez venir chez nous aujourd'hui au SDEC voir comment c'est chauffé aujourd'hui qu'il neige ? Chacun a son radiateur électrique dans le bureau, parce que quand il fait froid, bah, qu'il gèle, comme ça récupère les calories de l'air, il n'y a pas de calories quand il fait très froid, donc on se chauffe pas. » Donc ça c'est un problème, et l'autre problème c'est que quand on se chauffe juste par de la circulation de l'air, puisque l'air a une capacité de chauffage qui n'est pas la même que le rayonnement ou la convection. Hein. Donc on a une faible, ça c'est compatible avec une maison passive qui sera très bien isolée et qui n'a pas besoin de beaucoup d'apport de chaleur. Mais ce n'est pas compatible avec un bâtiment qui a une forte hyperdiction thermique, et auquel cas on n'aura pas un confort thermique, puisqu'en plus on aura des bruits, on aura d'autres soucis. Donc tous ces éléments-là font que c'est plus plaisant.
Ok, merci.
Alors, il y avait tout à l'heure le débat sur les doubles fenêtres. Moi je ne suis pas intervenu, mais les doubles fenêtres sont pris en compte. Et quand on pose une double fenêtre, on aura des exigences moindres par rapport à une fenêtre classique. Bon, je ne sais pas si vous voyez bien, je suis désolé, c'est pas évident d'avoir un bon rendu. Alors là, c'est les critères. Matériel d'isolation thermique. Donc on est dans les parois vitrées. Il y en a le soir, soit on prend une fenêtre classique, et là on va avoir un coefficient de. Bon, ça, on appelle ça un U. Plus le U il est bas, plus. En fait, c'est des déperditions. Le U, plus le U il est bas, moins il y a des déperditions, donc plus la fenêtre doit être performante. Et doit, là, on doit avoir si on met du métal 1,8, si on met du bois 1,4, etc. Et si on met une double fenêtre, on doit avoir un U de 2. C'est-à-dire que si on remplace la fenêtre ici et qu'on met une autre fenêtre, on devrait avoir une fenêtre plus performante que si on met une autre fenêtre, enfin une double fenêtre. Puisqu'en fait, on prend en compte déjà que la première fenêtre, elle isole déjà un petit peu.
Mais c'est quand même c'est
pas,
vitrage.
C'est
mais c'est double vitrage renforcé quand même.
Oui, mais
Alors, ça c'est des tableaux de quoi de. Ça c'est des tableaux, c'est un tableau qui est compilé des textes de.
C'est ADEME, Info Énergie,
etc. C'est un clé, je peux te dire. Mais c'est en fait, on a repris ça le texte de loi, c'est sur le texte de loi, on a repris les bulles.
Donc, contrairement à ce que je disais ce matin, je m'excuse, donc la deuxième fenêtre est prise en compte. Désolé.
Après, par rapport. Par rapport à la réglementation thermique, le crédit d'impôt va demander plus d'exigences. La réglementation thermique dans l'existant, on l'avait vu tout à l'heure. Pardon, c'est pas ça non plus. Je l'ai perdu. Désolé, je l'ai perdu. La réglementation thermique, on va prendre dans les combles, à l'imposer dans les combles, une résistance de 4,5, c'est l'équivalent, je ne sais plus combien d'épaisseur. Si on prend le crédit d'impôt, lui, il demande donc matériaux d'isolation des parois opaques, toiture sur comble, résistance thermique supérieure à 5. Voilà, le crédit d'impôt, lui, demande plus que la réglementation thermique. Il incite à aller plus loin,
plus exigeant.
Donc si on met dans la masse, on peut mettre une croix là-dessus. Hein. De l'isolant en masse qu'on a vu tout à l'heure. J'ai presque fini. On a aussi d'autres aides qui peuvent venir en cumul ou en partie cumulable. Ça va être les aides de la région Limousin, sur un chauffage solaire, sur un système sur un chauffage solaire, sur une chaudière bois. Sur une géothermie, puisque là, contrairement à la pompe à chaleur, on va chercher les calories du sol. Et le sol étant toujours à 12, 13, 14 degrés, ça dépend où on est, on va toujours avoir des calories à extraire. Quand on est sur l'air, on va chercher sur air, que ce soit air O ou RR, on a peu de calories quand il fait froid. Donc on va consommer beaucoup d'électricité. Et on a aussi les aides du département de la Corrèze. J'ai supprimé mon tableau, mais je peux le remonter vite fait. Les aides du département de la Corrèze. Qui vont être sur chauffe-eau solaire, chaudière bois, poêle bois, géothermie.
Quel que soit
le revenu, mais souvent, c'est même sur les résidences secondaires, en tout cas les aides de la région, c'est sur les résidences secondaires, et le département, je ne me souviens pas, vous pouvez être récupéré pendant 5 ans sur les résidences principales. Quel que soit, oui. Alors ça.
C'est quoi le principal dans le secondaire
là ? Non, sur le département, il faut que ce soit les résidences principales, sur le crédit d'impôt aussi, et sur la région, peu importe, du moment qu'on a une raison dans la région, c'est bon.
Et là, c'est que le département.
Non, il n'y a pas d'aide dans le département. Il n'y a pas d'aide dans le département de la Corrèze.
Et dans le cas de changement de résidence principale, le temps, les travaux peuvent être réalisés avant de.
Oui. Alors, c'est pas dans les textes, c'est pas très bien précisé. Ils disent que c'est, alors, je ne sais plus exactement la domination exacte, mais dans un délai raisonnable. Donc, grosso modo, effectivement, si on a une habitation, on rénove une grange. Alors, attention, quand on rénove une grange. On a un changement d'affectation du bâti. On considère que c'est du neuf. Donc pas d'aide sur l'isolation, par exemple.
Attends.
Oui. on prend une, on a une grange, on achète une grange qu'on veut rénover.
Oui.
On change d'affectation du bâti, on n'est plus sur grange, on est sur je sais pas comment ça, résidence principale, résidence principale. Donc du coup, c'est pas considéré comme un bâtiment ancien. Donc c'est considéré comme du neuf, donc on ne va pas avoir d'aide sur l'isolation, parce qu'on considère que sur le neuf, il n'y a pas d'aide à l'isolation, puisqu'on doit isoler comme on construit. Hein. Par contre, on va avoir des aides sur le solaire, sur le bois, sur les mêmes aides classiques.
Le taux de dégâts, c'est la même chose.
Et par contre, alors, dans un délai raisonnable, parce qu'effectivement, quand on achète une grange, quand on achète un bâtiment, on ne peut pas habiter de suite, il faut bien qu'on ait du temps pour mettre les travaux. Et moi, je pense qu'effectivement, c'est un ou deux ans.
Et il faut avoir, pour résider pendant combien de temps dans la résidence? S'il y a un changement de résidence consécutive comme ça?
Non, il n'y a pas de. Ça, si vous déménagez juste après.
Non, on peut avoir prétendre.
Ça, il faut se renseigner.
C'est pas une histoire de 5 ans?
Non. Sur le crédit d'impôt, il n'y a pas d'histoire de 5 ans. Mais renseignez-vous quand même, au bout de 6 mois, il y a peut-être des petites subtilités que je ne connais pas. Renseignez-vous quand même auprès des services des impôts, c'est le mieux, quoi. Après, tout est marqué dans les textes, donc nous aussi, on peut regarder dans les textes et puis. Regardez cela, mais.
Y a une exception pour les granges. Si vous achetez une maison non habitable avec une grange à côté, si la maison est non habitable et si vous faites l'ensemble, vous avez le droit. Il faut que la maison soit non habitable. Bien sûr, si vous achetez la maison habitable, et puis après, vous restaurez la grange. Mais si c'est un ensemble.
Par contre, je voulais faire juste une remarque, parce que moi, j'ai fait faire un devis, enfin plusieurs devis pour des fenêtres. Et certains vendeurs de fenêtres ne font pas les détails du prix de la fenêtre par rapport à la main-d'œuvre.
Oui.
Parce que forcément, ils surévaluent le prix des fenêtres pour s'en mettre plein la poche. Et c'est parce que je voulais les installer moi-même, donc je voulais lui demander le prix au détail de la fenêtre pour l'installer moi-même. Et comparer avec les 5%, les 19,6, etc. Mais forcément, il n'a pas voulu. Donc il ne doit pas savoir combien coûte la fenêtre, en fait. Donc ça, il faut se méfier. Hein, parce que. Et ça, c'est pas l'info.
Le mieux, c'est d'appeler. Il y a un numéro vert qui est pas mal sur le service des impôts. Vous aurez tous les renseignements.